Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un deuxième épisode de la troisième manche. Beaucoup de choses à raconter cette semaine encore, avec forcément les victoires de Marco Odermatt-Wengen, mais aussi l'épidémie de blessés qui envahit le cirque blanc. On va parler aussi de Cyprien Sarrazin, de Lara Goute et des épreuves de Kitzbühel qui pointent le bout de leur spatule. C'est avec Sylvain Boll du Sport Center et Johan Tachet de Ski Actu, et c'est tout de suite pour la troisième manche. Bonne écoute. Salut Sylvain, salut Johan, comment vous avez récupéré de ce week-end en haute altitude? Sylvain, ça n'a pas toujours été facile.
Non, ce n'est pas toujours facile, c'est toujours intense, surtout avec le programme qu'on a eu cette semaine à Wengen, et puis des petits soucis d'indigestion, donc voilà. Mais tout va bien sinon.
Johan, toi, tu es un habitué du cercle blanc, tu digères tout.
Ouais, on essaye au maximum de digérer et surtout d'être prêt et fit le matin à 10h pour les premières manches. Mais on s'en est sorti, c'est ça le principal. Mais c'est vrai que la presqu'île, ça fait aussi partie du jeu. Hein, comme on dit.
Bon, on va d'abord quand même tresser encore de nouvelles louanges à Marco Odermatt, Johan. Il y a bientôt plus de mots pour parler de ce monsieur.
Bon, pour nous, c'est compliqué parce que chaque fois qu'on doit écrire sur lui, on doit inventer chaque fois des mots. Le dictionnaire des synonymes, il fonctionne à plein régime, je peux te dire. Mais là, bah ouais, là, c'est bon, il a complété le défi, c'est-à-dire de reporter une descente enfin en Coupe du Monde. C'est le premier depuis Didier Cuche, je crois, en 2009-2010, avoir déjà remporté une descente en Super G1 dans la même saison. Donc, c'est totalement hallucinant. Il faut se rendre compte de ce qu'il est en train de réaliser. Ouais, pour moi, c'est fou.
Sylvain, tu as vécu au plus près des fans cette victoire, la vraie victoire, hein, celle de samedi. Comment tu as vécu ce truc pas comme les autres, qui est une descente de Wengen, pas loin du Hoogshop?
Ouais, juste sous la tête de chien, là, sur cette colline, le Girschbiel. C'est hyper impressionnant, c'est vraiment comme un paléo hivernal avec des milliers de fans de toute la Suisse. Il y a beaucoup de romans, et puis j'ai rencontré des Fribourgeois, des Neuchâtelois, des Fribourgeois qui étaient d'abord venus pour Marco Odermatt avant de venir pour Alexis Monet, quoi. C'était assez impressionnant. Et vraiment, tout le monde voulait voir le mythe du Laborum et le mythe Marco Odermatt aussi, quoi. C'était assez impressionnant.
D'ailleurs, record d'influence, hein, ça explique également l'engouement qui est autour, et c'est surtout Marco qui provoque ça.
Ouais, encore plus que Bad Voice, presque, on a l'impression. En tout cas, ouais, les romans, ils sont. Ah, il est peut-être aussi plus jeune. Il fédère peut-être encore plus, je ne sais pas. Il est peut-être parce qu'il parle aussi un petit peu français, l'anglais aussi. Donc, il fédère plus. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, ça restait le suisse allemand. Marco Odermatt, c'est plus la tête un peu en guillemets international. Et du coup, je pense qu'il fédère plus.
C'est vrai qu'on ne le dit pas assez. Bad Feuth ne parlait même pas allemand. C'était vraiment, vraiment terrible à écouter.
C'était un verre de tutsch.
Bon, parlons de ce qui fâche un peu moins, parce que on a l'habitude, en tant que média roman, à quand même pas mal parler des Français, parce que déjà on comprenait ce qu'ils disaient, et puis deux, ils le disaient assez bien. Mais là, Johan, heureusement qu'il y a Sarrazin, parce que sinon ce serait presque trop facile, quoi. Cyprien Sarrazin arrive à donner la réplique à Marco Odermatt, on l'a vu en Super G où il était hallucinant, et c'est une histoire pas comme les autres.
Sarrazin a cette faculté de prendre des risques, d'apprendre beaucoup plus sa trajectoire par rapport au Odermatt, c'est beaucoup plus stable sur ses skis, plus petit, plus la classe, d'apprendre la vitesse en laissant glisser les skis. Sarrazin, lui, c'est une tête brûlée, il est déjà craché une ou deux fois la seconde dernière. Mais voilà, il faut quelqu'un comme lui qui puisse vraiment le challenger au deep, et c'est comme ça qu'il va se pousser l'année d'autre.
Sylvain, on le dit, hein, Cyprien Sarrazin, c'est un casse-cou, et pour le moment, ça passe. Alors, c'est pas pour dire que Odermatt, il est mieux ou il est plus fort ou quoi, mais j'ai quand même l'impression que Odile est un peu moins à la limite et qu'il a un peu moins de risques dans son ski pour aller tout devant.
Ouais, il a peut-être besoin de moins prendre de risques. En tout cas, par exemple, le Super G, il avait dit qu'il avait quand même un petit peu calculé, puis peut-être laisser la victoire à Sarrazin aussi, parce que son pote Marco Koller, c'était t'es fracassé violemment la veille, forcément, ça influence un petit peu. Mais juste pour Sarrazin, c'est complètement fou. Hein. Avant Wengen, avant sa victoire en Super G, il avait fait 12 Super G en Coupe du Monde. Et il gagne, quoi. Il n'en fait que depuis la fin, il y a 2 saisons. Il avait fait en fin de saison, il s'était testé un peu,
C'est
il
la
a vu que
saison
ça
dernière.
marchait. Ouais, après, il a commencé un petit peu à faire de la descente, ça marchait bien. Puis, il m'en avait parlé à Val Gardena. En gros, il comprenait pas trop pourquoi ça marchait si vite, mais il disait, en fait, il a testé plein de sports aussi gamin et chaque fois, il était super bon. Il a un petit truc comme ça en plus. Il racontait ça sans arrogance, mais en disant que voilà, ça, il s'était lancé et puis ça passait. Et puis, la technique du géant, comme Marco Dermat, lui apporte énormément. Surtout que les descentes sont de plus en plus techniques maintenant. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'un Marco Dermat, un Cyprien Sarrazin brillent assez vite en vitesse et notamment en descente.
Ben Sylvain, il y a un truc hein, sur le cirque blanc, on est naturellement, en tant que média roman, penché vers les Français. Et Sarrazin, c'est vraiment un gars nature peinture. Il n'était peut-être pas aussi loquace à une certaine époque quand ça marchait pas trop en géant. Mais là, son ken, c'était la fête. Et puis, il dit des trucs. Et puis, c'est intéressant, quoi.
Ouais, c'est chouette, c'est un gars vraiment tranquille qui se prend pas la tête. Puis il y a de nouveau une bromance qui se crée là avec Marco Dermat. Bon, on a l'impression au bout d'un moment que Marco Dermat il est pote avec tout le monde. Hein. Je sais pas s'il a vraiment un ennemi sur le cirque blanc, mais avec Kildé, bon maintenant qui est blessé malheureusement, mais maintenant aussi avec Cyprien Sarrazin, il y a des jolies scènes. On les a vus danser sur la scène à Wengen après leur podium respectif, vu qu'ils sont pas quittés hein, du week-end. Donc c'est assez chouette aussi.
Ouais, alors moi, ce qu'il faut aussi préciser, c'est les Français dans l'ensemble. Ils sont toujours très intéressants à l'interview, ils ont toujours des choses à dire et ils sont pertinents dans toutes leurs analyses. C'est pas forcément sur leur manche, mais par rapport à tout ce qu'ils font à côté, ils ont toujours une explication rationnelle si on les lance sur le calendrier ou quoi que ce soit. Bon, après, c'est peut-être qu'ils ont moins l'habitude des médias parce qu'ils sont pas toujours présents, hein, les médias français. Ils sont toujours vraiment sympathiques à venir au micro et parler avec nous, petits journalistes suisses, mais journalistes quand même.
Bon, on continue ce podcast où on jongle hein, d'un réseau qui marche à un réseau qui marche. Sylvain, j'espère qu'on t'a retrouvé. Parlons un peu de ce qui fâche, ce qui a fait, mine de rien, la une de nos journaux aussi, à côté des victoires de Dormat. C'est cette épidémie de blessures. Alors, pour toi, est-ce qu'il y a une raison particulière ou est-ce que c'est aussi le danger de ce sport, quoi?
C'est un effet boule de neige, hein, on va dire, de ce qui se passe depuis le début de la saison. Il y a eu ces courses annulées à Zermatt, à Beaver Creek, que tout le monde voulait replacer. Alors, les seules possibilités, c'était Wengen et Valgardena. Et cela impliquait évidemment de faire 3 courses de vitesse de suite, en plus des entraînements. Ce qui fait cinq séances intensives. Wengen, c'est la plus grande descente, c'est le samedi, c'est 2 minutes 30, mais il faut savoir qu'ils ont fait une descente raccourcie, sprint, mais elle faisait 1 minute 45, soit autant que les autres normales que d'habitude. Et ben voilà, au bout d'un moment, ben on se retrouve à enchaîner. Pour les athlètes, c'est compliqué. Alors, ça doit être des athlètes de haut niveau, mais au bout d'un moment, ben le corps, il peut pas suivre non plus à ses exigences. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec Kildé, qui était en plus malade et puis qui s'est crashé dans le dernier virage. Aujourd'hui, ben, les athlètes payent vraiment cet enchaînement de compétitions dû aux annulations précédentes en début de saison.
Sylvain, on a vu la blessure de Kildé. On ne va pas oublier qu'il y a un an à Kitzbühel, il a failli se mettre sur le tas déjà. C'était passé à 8 mm à peu près. Mais là, est-ce que c'est la faute vraiment de la FIS ou de l'organisateur? Si Kildé est malade, va au bout d'une descente de 2,45 et veut absolument prendre ce dernier virage comme ça, est-ce que lui aurait pas dû éventuellement avoir la lucidité de s'arrêter,
Ah
quoi?
non, parce que s'il y a une épreuve qui est planifiée, lui, il va la faire, quoi. Il y a de l'argent qui est en jeu, il y a des points à gagner, il y a un globe de cristal, il ne peut pas gagner le général, il peut gagner que la descente, voir le super G, il ne peut pas faire l'impasse sur une épreuve. Donc s'il est agendé, c'est la faute de la FIDE. Et parce qu'il y a eu justement des annulations, comme le disait Johan. Et je pense qu'il y a eu un souci aussi de fraîcheur mentale, surtout des erreurs sur un saut, des erreurs d'une trajectoire, un peu de manque de réflexe, manque de réactivité, puis ça se paye au prix fort, quoi. On peut pas mettre non plus tout sur le dos de la FIDE, hein,
Ouais,
mais ça peut expliquer, hein.
qui est fou, c'est que Michel Vion, il dit, ben, ils ont qu'à choisir leur course. Mais bon, ils en ont déjà pas énormément. Et puis, comme tu le dis, Sylvain, ils doivent jouer les Globes. Donc, au bout d'un moment, tu peux pas faire des choix. Tu es obligé d'être au départ.
C'est ça, et les prize money ne sont pas incroyables hein, par un Kitzbühel. Ce n'est pas énorme ce qu'ils gagnent au final sur une saison. Et puis les sponsors, si les gars se retirent sur des épreuves comme un Wengen, imagine un Suisse ou même un Norvégien qui ne fait pas Wengen ou qui ne fait pas une épreuve à Kitzbühel où les retransmissions télévisées sont énormes, ils vont revenir dessus, quoi. Les marques de ski, les sponsors personnels, ils ne vont pas être contents. Donc.
Surtout que les athlètes, juste une petite précision, les athlètes, c'est Osleman qui nous expliquait ça hier, c'est qu'ils ont des primes de départ également, et pas uniquement à la performance. Et ça les incite à vraiment être au départ de toutes les épreuves et tout le peuple.
Alors, Johan, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme solution? Parce qu'on sait que la saison, pour pouvoir faire les courses, il faudrait quand même un peu la décaler plus tard. Est-ce que c'est quoi des jours de réserve sur certains week-ends? Est-ce qu'il faudrait qu'elle soit rallongée au printemps, par exemple, pour pouvoir skier un peu sur neige mouillée? C'est quoi la solution pour éviter ce genre de semaine à rallonge?
Pour moi, la meilleure solution, c'est de prolonger la saison en avril. Tout le monde le dit, les conditions sont encore exceptionnelles et moins meilleures que maintenant, au mois d'avril, surtout si tu vas en haute altitude. Tu peux les Zermatt, ce serait l'idéal de faire en avril, mais ils ne veulent pas parce que les hôtels sont déjà pleins. Voilà, une question pour nous, pour eux. Mais en Scandinavie, tu peux aller en Norvège, tu peux aller en Suède, tu peux même aller retourner aux États-Unis, au Canada. Après, ça pose un autre problème à nouveau de écologique, logistique et tout ce que tu veux. Avec ce dont on parle, avec ce problème environnemental des voyages, mais franchement, les conditions, elles sont excellentes et on peut facilement skier jusqu'à mi-avril et ça pourrait laisser des plages de repos qu'on pourrait mettre au milieu de la saison, voire pour replacer des courses qui sont annulées.
Sylvain, tu es d'accord, mais on sait très bien que les manufactureurs de ski, par exemple, eux, ils veulent vendre des skis en novembre, ils ne veulent pas vendre des skis en avril.
Ouais, mais on peut justement s'adapter au réchauffement climatique, à s'adapter à. Enfin, on peut aussi donner envie aux gens de skier en mars-avril si les conditions sont meilleures. Il fait moins froid, on peut skier en pull, voire boire une bière au soleil en t-shirt. C'est aussi chouette. Et puis, pourquoi pas ben, juste s'adapter et puis ouais, donner envie de skier aux gens à ce moment. Je ne sais pas si vraiment on donne envie aux gens de skier en octobre sur un glacier avec les images qu'on a vues, honnêtement. Mais bref, non, il faut clairement, je suis d'accord, il faut allonger la saison et puis peut-être prévoir aussi des week-ends. Bah, de toute façon, bah, normalement, ils seront plus aussi denses, mais peut-être prévoir aussi des week-ends libres avec peut-être juste une course. Et puis comme ça, on a un jour de battement pour déplacer la descente. Voilà, un petit peu
Bon,
plus de marge de manœuvre.
ça implique une trop grosse logistique. Si tu organises qu'une course, tu vois tout ce que tu dois mettre en place juste pour une course. Alors imagine si tu dis oui, on vous laisse ouvert au cas où. C'est quand même très compliqué, de mon propre avis.
Ouais,
Bon, vas-y.
c'est peut-être un peu compliqué logistiquement, mais peut-être juste une descente et puis le lendemain ou une descente à un super G et puis laisser une troisième place pour le slalom. Enfin, il y a moyen, je pense, d'un petit peu de marge de manœuvre, quoi. Ou dans la même région et puis comme ça, c'est plus facile de déplacer l'épreuve.
Bon, question un petit peu philosophique, Johan. Je crois qu'on a tendance à l'oublier avec notre sport moderne, hein, où la F1 est devenue un peu aseptisée, où ouais, bref, le sport, c'est vraiment 100% safe. Le ski, c'est un sport dangereux. On voit absolument tous les athlètes se sont fait au moins une fois le genou. Il ne faut pas oublier
Ah ouais,
que
ça
c'est un sport dangereux.
ouais, ça c'est sûr. Hein. Les athlètes disent qu'ils n'ont pas réussi leur carrière s'ils ne se font pas au moins une fois le jeu. Donc voilà. Voilà. Alexis Peintureau a dû attendre d'avoir passé 30 ans et de se crasher à Wengen pour se faire une première fois le genou. Donc, voilà, effectivement, ça arrive à tout le monde. Et c'est Dominique Paris qui le disait très bien samedi. Il disait, mais on ne peut pas. On prend tellement de risques. On risque chaque semaine au moins une fois notre vie. Ça met quand même en perspective la performance de ces gars. Et pour rebondir là-dessus, bah, il disait, mais une fois, ça va, mais deux fois, c'est quand même compliqué.
Sylvain, on oublie la dangerosité de ce sport des fois quand on voit les belles images, des machins avec des drones et tout. On oublie que bah, les types s'amusent à 150 à l'heure sur deux machins de 10 cm de large, quoi.
C'est clair, et puis au final, ils sont pas tant protégés que ça. Hein. C'est qu'idée qui disait, on est un petit peu nu sur notre combi. Il y a les airbags qui sont obligatoires dès la saison prochaine. Il y a pas tout le monde qui en porte actuellement. Et puis finalement, il n'y a pas grand-chose qui les protège. Le casque, ça fait des années qu'ils n'ont pas été vraiment améliorés ou ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de recherches là-dessus. Et du coup, finalement, ils ne sont pas méga protégés, les athlètes. Et puis, on voit, comme tu dis, ben, ce week-end nous a bien rappelé avec trois grosses chutes et trois fins de saison, quoi.
Mais
Johan, il y a aussi
ils sont
peut-être.
conscients, ils sont conscients, les types, hein. Ils le disent, on est conscient du danger. Lorsqu'on se retrouve au départ d'une descente, on sait qu'il peut nous arriver quelque chose. Donc après, on peut pas se plaindre non plus du fait que ce soit trop dangereux, parce qu'ils sont conscients du danger, ils savent qu'il n'y a pas forcément un habitacle dans lequel ils vont être safe s'ils se mettent en bas.
Johan, c'est le truc qu'on n'explique peut-être pas très souvent et qu'on voit peu à la télé finalement parce que la caméra écrase, c'est pris de loin, mais ils skient sur une espèce de patinoire à 60 degrés de descente. C'est un truc de fou que le commun des mortels qui mange ses pâtes à la raclette au bord de la piste ou à la télé ne peut pas se rendre compte de la folie que c'est.
Je mets au défi tous les auditeurs d'aller tester avec leur propre skin les pistes de Coupe du Monde, parce que c'est une patinoire en fait. Et là, c'est là qui est important, rentre en jeu la question du matériel. Ce sont des lames de rasoir sur lesquelles ces gars skient pour pouvoir tenir sur ces glaces, parce que c'est vraiment impossible à tenir dessus, même en dérapage. Si tu n'as pas d'écart qui sont faits, ben, tu termines dans les filets. Ben, doucement, mais tu termines dans les filets. Voilà, c'est quand même pour mettre en perspective, c'est pas la piste que tu vas skier samedi matin au Diableret, quoi.
Sylvain, tu as vu le bel exemple. Hein. Bah, toi, vous allez faire des reconnaissances de temps en temps. Sylvain, bon, on se rappelle la descente en Chine où il faisait moins 22 degrés. C'est un truc hallucinant. Sans y avoir posé les pieds ou les spatules, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est.
Non, vraiment, en fait, on pourra faire quelques reconnaissances, Johan aussi. Tu as des moments où tu es là face à un mur de glace, tu vois que c'est vraiment bleu, foncé, et puis tu te dis, mais là, si je dérape et si je tombe, ben, je me retrouve, je ramasse cinq personnes là sur la piste et puis je finis en bas fracassé. Bon, après, on n'a pas le matériel qui est aiguisé et puis préparé comme ces champions, ni la condition physique, ni tout ce qu'ils ont, mais c'est vraiment impressionnant. Et la moindre erreur, elle se paye cash, quoi. On voit un Kildé qui est pourtant une bête physiquement. Voilà, il se fait prendre sur l'arrière et puis il se fracasse dans les filets, dans les matelas, quoi.
En parlant d'impressionnant, Kit Bull arrive déjà le week-end qui vient. Je me rappelle d'un de mes oncles qui s'était payé une descente de Kit Bull pour se la péter et faire des jolies photos. Mais il était arrivé dans le portillon et bah, il est redescendu en télésiège. Ça illustre bien la folie du machin. Sylvain, qu'est-ce qu'on peut attendre de Kit Bull avec une liste de départ un petit peu dessinée quand même? Marco Odermatt, on va de nouveau compter sur lui, mais Kitzbühel, c'est encore peut-être un petit peu autre chose.
Ouais, il y aura deux descentes. Je pense que la FIS, les organisateurs vont quand même essayer de la tracer de manière pas trop. Peut-être raboter les sauts. Enfin, en tout cas, ils vont être vigilants, à mon avis, suite au week-end de Wengen. Ils ne vont pas faire les malins dès le premier entraînement. À mon avis, ils ne vont pas attendre le premier accident pour raboter un saut ou quoi que ce soit. Donc, peut-être ça sera un peu moins terrible que les autres années, mais je ne sais pas, parce que la piste reste quand même. Et ça reste une Coupe du Monde, donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Il y a deux chances pour Marco Odermatt de gagner de cette victoire à Kitzbühel, qui est un peu le deuxième objectif de sa saison, hein, vu qu'il n'y a pas de mondiaux et pas de Jeux Olympiques. Après, bon, voilà, il aura réussi sa saison, le globe il est assuré. Bah, il y a quand même encore une petite rivalité avec maintenant Cyprien Sarrazin, hein, en Super G et en descente. Donc ça c'est quand même encore intéressant. Et puis pour Kitzbühel aussi, en slalom, on peut attendre ce fameux podium des slalomeurs suisses, hein, parce qu'il se fait attendre gentiment.
Johan, tu sens assez bien le Audi parce que on a vu sur le haut et dans quelques passages à Wengen, finalement la glisse, il perd pas tant que ça. Et puis on sait quand même qu'à Kitzbühel, il y a des points où il faut savoir poser ses skis.
Marco, c'était l'une des premières pistes où il s'est senti immédiatement à l'aise en fait, en descente, alors qu'il était encore jamais monté sur le podium, mais il s'était approché de ce podium. Et c'était à Kitzbühel, sur cette piste qui est ultra compliquée. Plus c'est compliqué, plus il adore. Donc franchement, moi je vais mettre une petite pièce qui nous signe le doublé Wengen-Kitzbühel, qui ça m'étonnerait même pas qu'il remporte en plus les deux descentes de Kitzbühel. Précision, il y en aura une qui sera un peu plus courte que l'autre, hein, aussi, à Kitzbühel de descente.
Ah, moi, je préférerais que Cyprien gagne une sur les deux, comme ça, on a un petit peu de suspense pour le club de descente.
Puis Johan, toi, tu le vois arriver ce podium en slalom, allez, un Marc Rochat pour la Fruit.
Allez, Marc Rochat, ouais, c'est presque notre meilleure carte. Il est tellement en confiance actuellement que il peut clairement aller le chercher. Kizbi, ça va être hiver glacé, Kizbi, là. C'est peut-être toutes des conditions pour Daniel Hull qui l'a remporté deux fois. C'est une question de temps. Et franchement, ils sont vraiment juste autour de ce podium. Personnellement, moi, je ne suis pas inquiet. Les entraîneurs ne sont pas inquiets. Les coureurs non plus. Et voilà, on peut mettre également une petite pincette sur Tipoudjoum ce dimanche.
En parlant de stars qui brillent, ben on va finir ce podcast avec Lara Good, forcément, Sylvain. Ben c'est un peu le baobab qui cache la forêt de bonsaï chez les femmes cette saison.
Clairement, ouais. Après, c'est assez chouette quand même qu'elle gagne aussi en vitesse. Elle a fait un super début de saison en géant. Là, elle gagne en super G et c'est hyper positif parce que justement aussi une saison, il n'y a pas de mondiaux, de JO. Si elle avait fait une saison un peu moyenne, voire mauvaise, elle aurait peut-être pu, on le disait en début de saison, hein, qu'elle avait hésité à arrêter. Si elle n'avait pas eu des si bons résultats, peut-être que ça l'aurait fait penser cet été à rempiler pour un coup. Donc ça, c'est l'élément vraiment positif de ces résultats. Et ben, elle tire l'équipe de Suisse et ben, mine de rien, elle enlève aussi un peu la pression à d'autres qui arrivent en Coupe du Monde ou qui ont des résultats un peu moins bons. Donc c'est forcément bien que la locomotive réponde présente.
Johan, on en parlait avec ton collègue Laurent Morel la semaine passée. Heureusement qu'il y a Lara, parce que derrière, que ce soit les anciennes ou même la relève, c'est compliqué ce début de saison et c'est inquiétant pour la suite. Ah voilà, il est passé sur le réseau français, c'est pour ça qu'il a l'air très, très figé. Bon, on va attendre. Hein,
Alors je vais mettre, tu m'entends?
voilà, c'est
Ouais, c'est
reparti.
bon, voilà. Ouais, moi je t'entendais, donc c'était bon. Non, je veux remettre en perspective également Lara Good par rapport à Marco Odermatt, parce que Marco est le seul type à avoir fait un podium pour la Suisse chez les gars. Donc on peut également parler de Baobab qui cache la forêt pour le clan masculin. Après, évidemment, bah, les gars derrière, ils sont un peu plus proches. Hein. On parlait des slalomeurs, on parle de Justin Meurizier, de Nils Hinterman qui sont pas loin. Chez les filles, Johanna Hélène, Yasmine Fleury sont montées sur le podium à Val d'Isère. Michèle Guizine l'a fait en slalom. Il y a eu Wendy Holden avant sa blessure. Donc, non, alors moi, je ne pense pas que Lara Good elle soit toute seule au monde dans cette équipe de Suisse. Il y a du potentiel. Camille Rast n'est pas passé loin non plus. Après, le problème, ça reste cette relève. On les met gentiment sur les disciplines en vitesse. Enfin, pour le moment, il n'y a personne, malheureusement. On attend Stéphanie Grobe. Mais voilà, non, cette équipe féminine, je pense qu'elle fait ce qu'on attend d'elle jusqu'ici.
D'accord. Merci, messieurs, pour cette fine analyse du ski qui nous fait tant vibrer. Puis bah, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau podcast en espérant fêter des tas de podiums et puis avec des saucisses autrichiennes cette fois. À
Avec
bientôt.
plaisir. Merci, à bientôt.
Salut, merci à
Ciao, ciao.
cette équipe.
Thank you.